Vous écoutez, on lit pour vous.
Le Nunavik en marche pour inuitiser ses institutions. Un texte de François Bellemare paru le 26 juillet 2023 dans Le Devoir. En juillet 1983, Le Devoir avait été, sous la plume de François Bellemare, le seul média francophone à couvrir la troisième conférence circumpolaire inuit qui se tenait à Iqaluit dans le futur Nunavut. Quatre décennies plus tard, le revoilà sur place pour prendre la mesure du chemin parcouru. Second de trois textes. Au sein de l'Inuit Nunangat, qu'on pourrait traduire par l'Inuitie, le territoire fédéral du Nunavut et la région du Nunavik, dans le Québec arctique, vivent des réalités bien distinctes. Dans ce secteur du Nunavik, presque tous mes interlocuteurs jugent prioritaire l'adaptation à la réalité d'aujourd'hui des institutions découlant de la Convention de la baie James et du Nord québécois, CBJNQ. Bien que le bilan soit estimé positif sur plusieurs points, services de santé, création d'entreprises, maintien de la langue, une exigeante évolution est en marche au-delà du 55e parallèle. Koudjouak, l'ancien fort Chimou, est une capitale administrative affairée, un centre économique en expansion et le siège de plusieurs ressources en santé. Exemple, la maison Issourivik, lieu de confort en Inuktitut, une nouvelle résidence pour personnes en perte d'autonomie. L'un des intervenants, William Bilodeau, précise qu'ici cohabitent des résidents à plus long terme avec d'autres, logés pour de courtes périodes, dites de « répit » pour les familles, avec lesquelles Issourivik fait tous les efforts pour maintenir un contact quotidien. La directrice Jenny May en est plutôt fière. Quand on évoque la perte d'autonomie à court ou long terme, on pense à des gens très vieux. Or, des patients plus jeunes en souffrent également. Par exemple, à la suite de problèmes médicaux. Ces gens ne seraient pas vraiment à l'aise dans une résidence pour personnes âgées. Bien qu'on soit appuyé par l'hôpital local et la régie régionale de la santé, on veut être une ressource désinstitutionnalisée, une vraie maison dont les résidents participent selon leurs capacités aux tâches quotidiennes, explique-t-elle. On a un grand salon donnant sur un espace extérieur avec même une cabane de pêche au bord de la belle rivière Koksoak. La résidence doit se rapprocher de nos valeurs traditionnelles. La désarmante franchise d'une jeunesse majoritaire. Autre visite. Karjuit, conseil des jeunes du Nunavik, dont la présidente, Janice Parsons, dépeint sans détour trois défis touchant les jeunes, ici nettement majoritaires. Numéro 1. L'éducation supérieure nous est difficilement accessible, et pas seulement en distance géographique. En vérité, la minorité d'élèves qui finissent le secondaire n'a pas du tout le niveau des jeunes du Sud. L'entrée au cégep, francophone ou anglophone, cause un choc tel que beaucoup abandonnent dès la première année. Deuxièmement, même quand ils reviennent dans le Nord diplôme en main, peu d'emplois leur sont disponibles, hormis les postes subalternes. Pourquoi? Janice reste évasive. Y aurait-il un lien à faire avec d'autres commentaires sur une difficulté à pénétrer les institutions nunavikoises déjà établies? Troisième défi. Reprendre le flambeau de la langue. Il est vrai que presque tous les jeunes parlent Inuktitut, mais pas avec le niveau de maîtrise d'antan. Le déplore depuis longtemps l'homme politique Zebidi Nungak, qui m'a déclaré entendre des jeunes parler une langue dégradée, érodée, sévèrement affaiblie. Une solution, poursuit Janice, serait de poursuivre l'adaptation de l'enseignement collégial à notre réalité. Par exemple, le programme Nunavik Sivunit Savut, Nunavik Notre Avenir, lancé à Montréal en 2017 en partenariat avec le cégep anglophone John Abbott, d'une durée d'un an, avec cours sur l'histoire, la gouvernance, la langue et la culture, il s'inspire d'un programme équivalent pour le Nunavut qui, depuis 30 ans, a produit des centaines de diplômés. Beaucoup y voient une solution qui combinerait maintien de l'identité et développement des compétences professionnelles. Une priorité souvent citée par les Nunavikois eux-mêmes pour réussir à inuitiser les institutions issues de la convention signée en 1975. Les points positifs? D'abord, les jeunes sont moins conservateurs que leurs parents ou grands-parents. On pense au récent défilé de la fierté organisé pour une seconde année à Koudjouak par une très jeune communauté LGBT. Malgré la désapprobation de certains, le drapeau arc-en-ciel a flotté dans le ciel de l'Arctique. Comme avantage sur nos aînés, on a également une bien meilleure maîtrise des technologies numériques, si utiles pour les localités isolées. Finalement, il faut avouer que trouver du financement pour nos activités est assez facile. Ce dernier commentaire recoupe plusieurs autres, recueillis hors micro. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent affecté au Nord, aux Autochtones en général et aux Nunavik en particulier. Mais est-il toujours judicieusement utilisé? Développer une industrie de la construction préfabriquée. Si jadis les couples exogames unissaient typiquement hommes anglophones et femmes inuites, en témoignent les patronymes anglais Gordon, Watt ou Simon, et que l'anglais reste l'interface habituelle avec les gens du Sud, 5 ou 6 décennies de présence francophone expliquent le nombre croissant d'Inuits se nommant Bone, Duplessis ou Lamoureux et qui témoignent d'une nouvelle donne linguistique. C'est le cas des frères Daniel et Willie Gadbois, Inuits francophones de Koudjouak. Entrepreneurs en construction employant plus de 40 ouvriers, dont beaucoup venus du Sud, ils livrent des maisons préfabriquées aux différentes instances propriétaires de logements. Leur rêve, fabriquer sur place les composantes, plutôt que de les importer toutes faites. On créerait beaucoup d'emplois locaux qui rouleraient toute l'année. Car dans notre région, le manque de logements est criant. Leurs obstacles, le financement, ainsi que les coûts d'exploitation élevés des entreprises au Nord. On est en pourparlers avec la société Makivik qui, après tout, a le mandat d'aider au démarrage et même au développement d'entreprises inuites existantes. Par exemple, on aimerait avoir une politique d'approvisionnement spécifique à la région, avec l'avantage de développer sur place ce secteur industriel crucial. Bref, c'est tout le Nunavik qui y gagnerait. Un dossier à suivre? Une sommité linguistique. Enfant des dernières années de la vie semi-nomade dans la baie du Tson, Zebedi Nungak est né en 1951 aux environs de Pouvirnitouk. Élève brillant, il fut envoyé à Ottawa pour son secondaire dans le cadre d'un programme fédéral destiné à la formation d'une élite autochtone, mais dont un aspect moins noble, dévoilé bien plus tard, était de conduire secrètement une expérience sur les réactions de ces adolescents déracinés. Un documentaire, Experimental Eskimos de Barry Greenwald en 2009, témoigne du traumatisme personnel que Nungak traîne encore, tout en assumant son rôle de membre d'une élite arctique éduquée. Il fut l'un des plus jeunes militants de l'historique génération qui s'opposa au projet d'Hydro-Québec et qui négocia la Convention de la baie James et du Nord québécois. Considéré comme le premier traité moderne entre Blancs et Autochtones, elle projeta brutalement les Inuits dans la modernité en même temps qu'elle établissait aux Nunavik des institutions assez uniques à l'époque. Au prix de déchirements internes entre signataires et les 3 villages dissidents, dont Pouvirnitouk, que Zebedi dut quitter devant l'hostilité ambiante. Depuis, il n'a cessé de tenter de concilier pour son peuple la sauvegarde culturelle et le désir de modernité. Journaliste et auteur, pourfendeur des Esquimologues d'autrefois, il a co-réalisé un film satirique plutôt original, Kalunat Why White People Are Funny, avec Mark Sandiford en 2006. Il y incarne dans un institut de blancologie le chef d'une équipe d'anthropologues inuits étudiant les Blancs. Mesure du crâne, étude de notre langue et de nos mœurs sexuelles, la fiction farfelue d'un colonialisme à l'envers. Deux fois candidat indépendant aux élections, il combine une fine analyse de l'histoire moderne à une haine maladive du nationalisme québécois. Décoré de l'Ordre national du Québec en 2017, il est maintenant directeur de l'Institut Avatak, qui se consacre à la langue et à la culture inuite et reste à 72 ans, une incontournable sommité linguistique. C'était le Nunavik en marche pour inuitiser ses institutions. Un texte de François Bellemare paru le 26 juillet 2023 dans Le Devoir.
Les scientifiques sonnent l'alarme face au réchauffement dramatique des océans. Un texte de Rosa Soulerio de l'Agence France-Presse, paru le 12 avril 2024 dans Le Devoir. L'augmentation vertigineuse de la température des océans alarme les scientifiques qui appellent à renforcer la recherche sur les changements à l'œuvre et craignent des effets dévastateurs sur le climat dans son ensemble. Les changements se produisent si rapidement que nous ne sommes pas en mesure d'en suivre l'impact, reconnaît Vidar Helgesen, secrétaire exécutif de la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO, pour qui s'attaquer au réchauffement des océans est urgent. Un effort beaucoup plus important d'observation et de recherche en temps réel est nécessaire, a-t-il dit à l'AFP lors de la conférence de la décennie des océans qui a eu lieu à Barcelone et a réuni 1500 scientifiques, représentants d'États ou d'organisations. La température des océans, qui recouvre 70% de la Terre et joue un rôle clé dans la régulation du climat mondial, a atteint un nouveau record absolu en mars, avec 21,07 degrés Celsius de moyenne mesurée en surface, hors zone proche des pôles, selon l'Observatoire européen Copernicus. Cette surchauffe, qui ne cesse mois après mois de s'aggraver depuis 2023, menace la vie marine et entraîne une humidité plus importante dans l'atmosphère, synonyme de conditions météorologiques plus instables, comme des vents violents et des pluies torrentielles. Capacité pas infinie. Selon les spécialistes, les océans ont absorbé depuis le début de l'ère industrielle 90% de l'excès de chaleur provoqué par l'activité humaine. Les milieux marins, qui produisent près de la moitié de l'oxygène que nous respirons, ont ainsi permis à la surface de la Terre de rester habitable. L'océan a une capacité thermique beaucoup plus grande que l'atmosphère. Il absorbe beaucoup plus de chaleur, mais il ne peut pas l'absorber à l'infini, avertit Cristina González-Haro, chercheuse à l'Institut des sciences de la mer de Barcelone. Selon une étude de référence publiée en janvier 2024, les océans ont encore absorbé, en 2023, une quantité d'énergie colossale, pouvant faire bouillir des milliards de piscines olympiques. L'un des objectifs majeurs de la décennie de l'océan 2021-2030 est de tenter d'élargir les connaissances sur le réchauffement et de décrypter ses multiples implications pour tenter de les limiter. Nous ignorons encore beaucoup de choses sur les océans. Nous n'avons cartographié qu'environ 25% des fonds marins de la planète et, dans le même temps, nous devons cartographier et surveiller en direct les changements qui se produisent en raison du changement climatique, souligne M. Helgesen. Selon l'Organisation météorologique mondiale, OMM, une agence de l'ONU, plus de 90% des océans de la planète ont connu à un moment de l'année 2023 des vagues de chaleur avec un impact direct sur le climat et les écosystèmes sur l'ensemble de la planète, quelle que soit la distance qui les sépare de la mer. On est sur une trajectoire qui interroge beaucoup les scientifiques et on se demande si on n'a pas sous-estimé le réchauffement climatique à venir. A mis en garde à Barcelone Jean-Pierre Gattuso, spécialiste du Centre national de la recherche scientifique, CNRS français. Tout compte. Les difficultés de mise en œuvre des grands accords internationaux sur l'environnement, comme l'accord de Paris conclu en 2015 pour tenter de limiter le réchauffement climatique, n'invitent cependant pas à l'optimisme, selon les scientifiques. Nous sommes nombreux à être quelque peu frustrés de voir que, malgré les démonstrations scientifiques du changement climatique et de ses conséquences, la mise en œuvre de l'accord de Paris soit aussi lente, aussi difficile, aussi douloureuse. Ça n'augure rien de bon pour le futur, a déploré M. Gattuso. Les chercheurs font toutefois état de quelques signaux positifs, comme l'adoption en 2023 par les États membres de l'ONU, après 15 ans de discussion, d'un traité historique de protection de la haute mer. Si je pouvais adresser un message aux décideurs, présidents, premiers ministres ou chefs d'entreprise, je pense que ce serait « Prenez un moment dans votre agenda chargé et regardez dans les yeux vos enfants et petits-enfants », a exhorté M. Elgesen. Un appel relayé par Jean-Pierre Gattuso, chaque dixième de degré compte, chaque année de gagné compte, et il n'est jamais trop tard, il ne faut absolument pas se démobiliser. C'était « Les scientifiques sonnent l'alarme face au réchauffement dramatique des océans », un texte de Rosa Soulerio de l'Agence France Presse, paru le 12 avril 2024 dans Le Devoir.
Les ovnis, un test pour la démocratie américaine. Une chronique signée Maca Cotto, parue le 14 août 2023 dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Dans les profondeurs de l'âme humaine, là où réside la quête éternelle de la vérité, la démocratie brille-t-elle une lueur d'espoir. Mais parfois, même la lumière la plus éclatante peut être assombrie par des secrets bien gardés. Dans le grand théâtre de la démocratie, la transparence est la pierre de fondation. Pourtant, même la démocratie la plus solide peut avoir ses zones d'ombre. Même dans l'icône mondiale de la liberté, les États-Unis d'Amérique, les tensions surgissent, dissimulant des vérités derrière un rideau opaque. On se souviendra notamment, parmi les exemples les plus spectaculaires, des intrigues entourant les armes de destruction massive de Saddam Hussein. Aujourd'hui, ce sont des murmures sourds qui troublent la quiétude, ceux des ovnis. Révélation sous serment. La date du 26 juillet 2023 a marqué une étape. Alors que l'été étendait ses rayons, une voix, celle de David Grush, s'est élevée du fond des couloirs froids du Congrès américain. Avec le poids du serment, cet ancien officier du renseignement américain évoque un futur rempli de mystères, fragments de l'inconnu et restes non humains. Il a lancé au monde un défi. Le gouvernement des États-Unis, gardien de vérités insondables, posséderait des vestiges d'un autre monde et en étudierait la structure pour en extraire la technologie. Face à ces affirmations, le département de la Défense, le Pentagone, cette forteresse de la raison d'État, oppose un déni. Mais, sans le sceau du serment cette fois-ci, ce qui rend ce démenti étrangement creux, telle une porte claquée sur un secret. Le doute s'installe. les fondations fragiles de la confiance. Au-delà des ombres, des étoiles et des mystères interstellaires, c'est le cœur même de la démocratie américaine qui bat faiblement sous ce poids. La confiance, essence pure de la démocratie, se trouve ébranlée. Comment les citoyens peuvent-ils suivre le chemin tracé par leur gouvernement si ce dernier masque des chapitres entiers de la grande histoire? Entre les ombres de la sécurité et la lumière de la vérité. Avec des milliards de dollars de contribuables déversés dans les coffres du département de la Défense, des mystères échappant au Congrès, la question demeure. La démocratie peut-elle subsister quand la transparence est négligée? À l'approche des élections présidentielles de 2024, le sujet des ovnis pourrait s'inviter dans le débat politique, posant un dilemme profond pour la nation. Les États-Unis, à ce carrefour, doivent choisir entre la sécurité de leurs citoyens et la révélation de vérités potentiellement déstabilisantes. Toutes les époques ont leurs secrets. Face à l'inconnu cosmique, les États-Unis ont à la fois une opportunité et une responsabilité. Guider leurs citoyens, voire le monde, vers la vérité. Pour promouvoir la démocratie, le gouvernement américain doit être un exemple. La transparence doit être sa bannière, même face aux mystères les plus insaisissables de notre univers. Cette histoire est loin d'être close. Elle continuera de nous interpeller sur la véritable nature de nos principes démocratiques. C'est là une énigme à résoudre, non dans les étoiles, mais au cœur même de notre société. C'était « Les ovnis, un test pour la démocratie américaine », une chronique signée Makakoto, parue le 14 août 2023 dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec.
Dans le placard, la bille ne fait pas le moineau. Un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 10 juillet 2023 dans le magazine Fugue. En 2001, le réalisateur français Francis Weber avait propulsé au cinéma son film Le Placard et avait réuni pour l'occasion un véritable who's who du cinéma français avec des vedettes telles que Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Thierry Lhermitte, Michel Aumont et Jean Rochefort, entre autres. Grâce aux comédiens et producteurs Jean-Bernard Hébert, on pourra voir cet été, au Théâtre de Rougemont, la pièce hilarante « Le placard » avec une mise en scène d'Alain Zouvi. Mais de quoi s'agit-il vraiment dans cette pièce? François Pignon, comptable discret dans une usine de fabrication de condons, est sur le point d'être congédié. Sur les conseils de son voisin d'immeuble, il décide de propager la rumeur qu'il est homosexuel pour ne pas être licencié, car l'entreprise ne voudrait pas se faire taxer de discrimination. Suite à ce faux coming out, les cadres de la direction décide de garder M. Pignon. Celui-ci passe brusquement pour un marginal, bien qu'il n'ait rien changé à son comportement. C'est le regard des autres qui va changer. Pignon est désespéré. Il vient de se séparer de sa femme. Il perd la garde de son fils, explique Jean-Bernard Hébert. Il veut en finir. Il veut se jeter du haut de son appartement pour se suicider. Mais son voisin lui dit que s'il saute, il va atterrir sur son auto, qui est rouillée, mais qui roule encore. Les deux se lient d'amitié et le voisin lui suggère de se faire passer pour homosexuel pour ne pas être mis à la porte, et ce, même s'il ne l'est pas du tout. Ici, ce n'est pas Pignon qui change, mais plutôt les autres, parce que, en fin de compte, tout ce qu'il veut, c'est de sauver sa job. C'est une pièce drôle, mais c'est aussi une critique de la société. Jean-Bernard joue le rôle de Maurice, le patron mou qui a peur des scandales dans la comédie de Francis Weber. Je suis tellement content de présenter cette adaptation du Placard, poursuit Jean-Bernard Weber. Weber nous fait bien rire, mais nous fait aussi réfléchir sur ce qu'est la société. C'est lui aussi qui nous a donné des films comme Le Dîner de cons, L'Emmerdeur, etc. Donc oui, c'est drôle, mais cela fait réfléchir. C'est onctueux. La mise en scène de Zouvi est délicieuse. On y voit tous les comportements homophobes qui ressortent, les préjugés qui remontent. La mise en scène est très pertinente et vraiment adaptée à 2023 et au contexte du Québec, souligne Jean-Bernard Hébert, qui cumule plus de 35 ans de métier au théâtre, à la télévision ou au cinéma. Représailles, chat en poche, L'Invité, etc. Ou encore sur les écrans dans Toute la vie, Classe et secret, Plan B, District 31 et Le guide de la petite vengeance, etc. Dans la distribution, on retrouve donc les Élodie Bégin, Raymond Bouchard, 78 ans, et qui célèbre cette année 60 ans de carrière, Sébastien Dodge, Hugo Giroux, Jean-Bernard Hébert, Myriam Poirier et Marc-André Poliquin. Tous les gens sont incroyables dans cette pièce. Ce sont de véritables canons. Et que dire de Raymond Bouchard, que je connais et avec qui j'ai joué depuis plus de 30 ans, autant au théâtre qu'à la télévision. C'est réellement une belle équipe que nous avons réunie là. Ce sont tous des canons du métier et c'est une telle joie que d'être avec eux sur scène, ajoute-t-il. Et il y a aussi le personnage de Whippet, mais je n'en dis pas plus. Les gens vont le découvrir. C'est une surprise, de dire, en rigolant, la fable Jean-Bernard Hébert. Info, le placard en un mot, .ca. C'était Dans le placard, l'habit ne fait pas le moineau. Un texte d'André Constantin Passiour, paru le 10 juillet 2023 dans le magazine Fugue.